Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat, de point de vue. C'est votre 18-20 dans une poignée de secondes. Le journal, on va faire un tour des villes avec les restrictions sanitaires. Dans 20 minutes, mon invité à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo est le triple champion olympique de canoë et président de Paris 2024, Tony Estanguet. Il est à Tokyo et il est sur Europe 1 ce soir. 18h30, le débat des grandes voix. On va parler de la droite avec Valérie Pécresse dans les starting blocks et la course contre la montre à l'Assemblée pour le pass sanitaire. Vous réagissez, bien sûr, je vous attends au 39-21. Et puis à 19h15, votre club des idées, les Jeux Olympiques, justement, qui débutent donc demain. Mais pourquoi cette épreuve sportive nous fascine-t-elle tant? Petite histoire des JO, mais pas que. 39-21, vous prenez la parole, on échange nos souvenirs, on échange également nos espoirs. Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
C'est pas une surprise, on s'y attendait plus ou moins. On avait pris les masques de toute façon, c'est se protéger nous, c'est se protéger les autres.
De plus en plus de cas de contamination et l'inquiétude des départements. Alors que l'obligation de porter un masque en extérieur a été supprimée le 17 juin dernier, ils sont très nombreux à le réimposer en extérieur.
Valérie Pécresse veut restaurer la fierté française. La présidente de la région Île-de-France annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle.
À l'affaire Pegasus agite l'Élysée alors qu'un des téléphones d'Emmanuel Macron a été ciblé par le logiciel espion. Le président a réuni ce matin un conseil de défense extraordinaire.
Alors que la flamme olympique sera rallumée demain à Tokyo, les footballeurs français ont fait leur entrée en lice. Un premier match malheureusement raté face au Mexique. Score final 4 buts à 1.
La bourse de Paris termine ce soir dans le vert, plus 0,26% pour le CAC 40 à 6481 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, c'est le retour des orages en Bretagne après cette belle séquence de beau temps. Les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan ont été placés en alerte orange, donc pour des orages parfois violents qui vont circuler en deux temps demain. Précision et détails à la fin du journal.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement l'a annoncé en début de semaine, la quatrième vague redoutée balaye déjà la France et le nombre de nouveaux cas de contamination augmente de jour en jour.
Il y en avait 21 000 de plus hier sur 24 heures. Une explosion en raison du variant Delta et face à cette nouvelle flambée, de nombreux départements ont décidé de réimposer le port du masque en extérieur, Pierre Herbulot.
Saint-Tropez, hier, Toulon, 58 communes du Var sont concernées. Décision de la préfecture face à une situation qui se rapproche dangereusement de l'incontrôlable. 16 regroupements de cas recensés, des villes avec un taux d'incidence de plus de 900, c'est 18 fois plus que le seuil d'alerte. Et puis, des services de réa quasi saturés, la conséquence d'un cocktail estival brûlant. Relâchement, plus tourisme, plus variant Delta. Ça, c'était pour le Var, mais partout, des décisions similaires sont prises. Le masque à l'extérieur revient dans l'Hérault, dans 45 communes des Charentes-Maritimes, 22 du littoral vendéen, 19 d'Ariège. Parfois, ce sont des zones denses qui sont visées dans des villes touristiques comme Deauville, Saint-Malo, Lille ou Bordeaux. Restrictions prolongées aussi dans les Landes, avec une jauge à 5000 personnes pour les événements, plus une interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Enfin, le couvre-feu est toujours maintenu à 23h dans les Pyrénées-Orientales. En Haute-Corse, le pass sanitaire sera même expérimenté de manière anticipée demain dans certains bars et restaurants.
Merci Pierre Herbulot. La Charente-Maritime est l'un des départements les plus touchés par la hausse du nombre de cas de contamination. Le maire de La Rochelle a également demandé le retour du masque obligatoire en extérieur. Laura Taouchanov, vous êtes à Châtelaillon-Plage pour Europe 1. C'est juste à côté de La Rochelle. Cette commune qui est également concernée par la restriction du port du masque en extérieur. Pour le moment, la mesure n'est pas très suivie.
Et oui, il y a ceux qui se coupent du monde pendant leurs vacances et n'étaient tout simplement pas au courant.
Vous saviez qu'il fallait remettre le masque ?
Absolument pas, j'étais pas du tout au courant.
C'est moi qui viens de l'apprendre à Céline, une touriste originaire de Metz, qui va du coup profiter de la plage, le seul endroit où le masque n'est pas obligatoire.
Je pense que c'est nécessaire, mais c'est trop tout ou rien de toute façon. Donc, ils ont enlevé d'un coup toutes les restrictions, enfin du moins les plus grosses, pour les remettre 3 semaines après en se rendant compte que ça allait pas. Ça n'a pas été assez dégressif là-dessus. Maintenant, tant pis, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Mais ça m'arrange pas beaucoup, sous 35 degrés, de porter le masque.
Et ça tombe plutôt mal pour la deuxième semaine de vacances de Corinne, mais malgré la chaleur, cette Normande reprend ses vieilles habitudes.
On était de toute façon au courant que potentiellement, ça allait reflamber. Donc c'est pas une surprise, on s'y attendait plus ou moins. On avait pris les masques de toute façon, c'est se protéger nous, c'est se protéger les autres. Et puis disons que c'est une crise qui va passer, on va finalement y arriver.
Pour les locaux, l'arrivée des touristes est une bonne nouvelle pour l'économie, mais à condition qu'ils respectent les règles, explique Régine.
Ce sont des gestes citoyens, c'est une contrainte. On vit en société, et pour moi, une société, elle a des règles.
Des règles qui se voient depuis hier, les panneaux « obligation de porter le masque » ont refait leur apparition sur la promenade du front de mer.
Alors, à Taouchanoff, à Châtelaillon-Plage, pour Europe 1, en marge des restrictions qui reviennent département par département, les débats sur le pass sanitaire se poursuivent à l'Assemblée, s'éternisent. L'adoption du texte pour la fin de semaine s'éloigne donc progressivement. Les députés viennent de voter, noter contre le pass sanitaire pour les résidents des EHPAD et leurs visiteurs.
Et notez qu'en Europe, 200 millions de personnes sont désormais totalement vaccinées contre le Covid-19, ce qui représente plus de la moitié des adultes européens.
On passe à cette information qui est l'information politique de la soirée. Valérie Pécresse affiche très clairement ses ambitions pour 2022. La présidente de la région Île-de-France, réélue en juin dernier, annonce sa candidature à la prochaine présidentielle.
Mais Valérie Pécresse, elle se prononce pour une primaire à droite très largement ouverte. Bonsoir Lou Dragnel.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Que souhaite faire Valérie Pécresse et que faut-il comprendre avec cette nouvelle candidature à droite ?
Alors tout d'abord sur la ligne politique, Valérie Pécresse veut remettre le pays en ordre, principalement en matière de sécurité et d'immigration. Elle dénonce l'impasse de la stratégie du « en même temps » d'Emmanuel Macron dans le domaine régalien. Un Emmanuel Macron à qui elle reproche d'avoir fait très peu de réformes. Alors ça c'est pour le fond. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les candidats potentiels de la droite pour la présidentielle se sont réunis il y a 2 jours pour essayer de s'entendre sur l'organisation d'une primaire sans pour autant l'acter véritablement. Et donc, en déclarant sa candidature la première, Valérie Pécresse vient de provoquer l'organisation de cette primaire où elle pourrait se retrouver face à Bruno Retailleau ou encore Laurent Wauquiez qui ne se sont pas encore déclarés. Autre enseignement, Valérie Pécresse vient de mettre une très grosse pression sur les épaules de Xavier Bertrand. Car vous savez, le président des Hauts-de-France, qui est déjà candidat à la présidentielle, ne veut pas participer à la primaire et il aimerait beaucoup être le seul candidat de la droite pour la présidentielle. Ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'en se lançant, Valérie Pécresse est en train de forcer Xavier Bertrand à la négociation pour trouver une solution, car la droite le sait, si elle ne présente pas un candidat et un seul, elle est presque sûre de perdre en 2022.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1, notez que Valérie Pécresse sera l'invitée du journal de 20h ce soir sur TF1.
L'affaire Pegasus à présent, face aux nombreuses révélations dans cette affaire, l'Élysée jusqu'à présent très discrète a décidé de réagir. Emmanuel Macron a réuni ce matin un conseil de défense extraordinaire.
Le président, dont l'un des téléphones aurait été surveillé par le Maroc via le logiciel espion israélien. Officiellement, cette réunion visait à parler cybersécurité, notamment concernant les plus hautes sphères de l'État. Une enquête a été ouverte il y a 2 jours par le parquet de Paris, ce qui a ralenti les investigations entamées par les services de l'État. Alors qu'est-ce qui va se passer à présent, Aude-le-Roi ?
Bien effectivement, oui, cette judiciarisation de l'affaire a tout stoppé et la consigne donnée aux enquêteurs, c'est d'attendre que le parquet ou un juge d'instruction désigne le service qui sera chargé d'examiner les téléphones portables potentiellement infectés. Alors ça peut être la DGSI, la Sécurité intérieure, ou bien l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des services d'information, qui est aussi responsable de la cybersécurité de l'État, ou encore l'OSIIC, c'est l'opérateur des systèmes d'information classifiés. Il compte 200 personnes environ qui sont entièrement dédiées à sécuriser les communications du président de la République et des ministres. Alors, une fois le feu vert donné par le parquet et surtout la liste des victimes clairement établie, les téléphones qui ont été possiblement infectés par Pegasus seront attentivement examinés sous la houlette d'un officier de police judiciaire. Alors après, ça peut aller vite, très vite, les services sont compétents. Mais comme c'est la justice qui mène le jeu, rien ne doit fuiter, tout doit être tenu secret. Alors, pas d'inquiétude à l'Élysée sur les secrets d'État. Emmanuel Macron est, me dit-on, le plus carré des présidents quand il s'agit au téléphone de parler de sujets sensibles. En revanche, son entourage est moins à l'aise avec l'idée que ses téléphones personnels soient vérifiés. Le chef de l'État a la réputation d'être assez cash dans ses messages, taquin, aux blagues un peu gauloises, paraît-il. En attendant, on a appris il y a 2 heures qu'on vient de lui changer par prudence et son téléphone portable et son numéro.
Aude-le-Roi, à la suite de cette affaire, le Maroc attaque Forbidden Stories et Amnesty International en diffamation à Paris. On vient de l'apprendre.
18h08, souvenez-vous, c'était le 2 juin dernier, une panne gigantesque paralysait les services d'urgence en France. Près de 12 000 appels n'avaient pas pu être acheminés vers les secours. Un incident qui a causé la mort de 6 personnes.
Le gouvernement a refermé ce matin le chapitre de la panne, de cette panne d'Orange. Il a dévoilé l'audit mené par les services de l'État, un rapport qui met en lumière les défaillances de l'opérateur, Clément Le Saffre.
Oui, l'audit est assez critique vis-à-vis d'Orange, pas tant au niveau de la panne en elle-même qui est due à un bug logiciel dont Orange n'avait pas connaissance. Sur ce point, c'est Italtel, entreprise italienne qui a conçu l'équipement défectueux, qui est mise en cause. En fait, le rapport pointe plutôt du doigt la gestion de la crise par Orange. L'opérateur a mis 2 heures à prévenir les autorités et 3 pour prévoir un dispositif de secours. Par ailleurs, il n'avait pas du tout prévu une panne à l'échelle nationale, un manque d'anticipation qui lui a fait défaut et que critique vivement l'audit. Le gouvernement a donc décidé de saisir l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui va évaluer si l'opérateur a manqué ou non à ses obligations lors de l'incident du 2 juin. Malgré tout, Orange va rester quand même en charge de la gestion des numéros d'urgence, mais il va devoir améliorer sa collaboration avec les autorités compétentes. Contacté par Europe 1, l'opérateur s'engage, je cite, à revoir ses process et ses organisations en lien avec les services de l'État. Des exercices de crise seront ainsi organisés régulièrement pour ne rien laisser au hasard. Mais pour ne pas laisser passer la moindre petite faille, le gouvernement souhaite en plus de tout cela durcir le cadre légal de la gestion des numéros d'urgence.
Clément Le Saffre.
Et puis cette affaire qui fait trembler les services de la sécurité intérieure. Un ancien agent de la DGSI avait vendu sur le dark web des données confidentielles.
Oui, l'homme de 35 ans était connu sous le nom de Horus. Il a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme, 2 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre. Endetté, il avait vendu des informations protégées tirées des fichiers de police, Gladys Laffitte.
Oui, des faits qu'il a en majorité reconnus lors de sa comparution devant le tribunal. C'était en juin dernier. L'ancien brigadier avait expliqué ses agissements par l'appât du gain pour mettre du beurre dans les épinards, je cite. Grâce à ses accès aux fichiers de police, il pouvait revendre des informations protégées comme des adresses, des identités, des géolocalisations téléphonique, mais jamais tiré de la base de données sensible de la DGSI, a-t-il assuré. Ces services coûtaient entre 100 et 300 euros récupérés en bitcoin. Il fabriquait même de faux documents administratifs. À l'audience, il avait promis que jamais cela ne se reproduirait, ce qui n'a visiblement pas convaincu le tribunal avec cette peine prononcée, donc de 7 ans d'emprisonnement, dont 5 fermes. Une peine non aménageable pour prévenir les risques de nouveaux faits, a dit la présidente. Il a donc été emmené en prison. Il a maintenant 10 jours pour faire appel de cette décision. Mais Horus n'en a pas fini avec la justice dans tous les cas, puisqu'il est mis en examen dans un autre volet de l'affaire à Marseille, toujours en cours d'instruction.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Le sport à présent, à 24 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Les Bleus ont fait leur entrée en compétition aujourd'hui.
Oui, ce sont les footballeurs qui étaient les premiers athlètes français à défendre nos couleurs. Une équipe de France qui a beaucoup souffert face au Mexique et qui a raté son entrée en lice. Il faut bien le dire, Julien Froment.
Oui, ça s'est pas bien passé en effet. Lourde défaite, déroute même de l'équipe de France, 4 à 1. Écoutez d'ailleurs le commentaire de notre confrère mexicain sur le 4e et dernier but. Un bonheur qui contraste forcément avec la réaction dépitée de l'attaquant français André Pierre Gignac, lui qui joue au Mexique, au Tigres de Monterrey. Il était ce matin face à ses coéquipiers en club et ses amis. Le français qui a eu des mots très durs à l'issue de la rencontre.
Aujourd'hui, on a manqué de tout. On a manqué de concentration, on a manqué d'agressivité dans le bon sens du terme. Eux ils l'ont mis, on a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. Donc ce soir c'est une vraie grosse contre-performance. Mais il reste deux matchs, et il faut aller chercher cette qualif, on n'a pas le choix, c'est ce qu'on a envie. Le premier match est passé, on sait ce qu'il nous faut, les ingrédients qu'il faut mettre pour les prochains matchs. Et j'espère que tout le monde va se mettre au diapason parce qu'on n'a pas envie de rentrer en France après le troisième match.
Prochain match pour les Bleus dimanche, toujours à 10h, heure française, face à l'Afrique du Sud, qui de son côté s'est incliné 1-0 contre le Japon dans l'autre rencontre du groupe A.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Et puis notez que Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, sera avec nous depuis Tokyo dans un instant. Ces derniers jours, il a fait très chaud en France. Ça devrait changer, hélas, dans les prochains jours, nous dira Marlène Duret dans un instant.
Oui, et puis pas toujours facile hein, cette chaleur quand on est en ville, à l'instar de ces Parisiens qui n'ont pas encore pu partir. Alors chacun a sa petite astuce pour supporter le soleil. Écoutez.
J'ai installé ma serviette et puis je fais bronzette et c'est très bien parce qu'il y a de l'espace dans ce parc et tout, c'est super. J'ai ramené ma crème solaire, j'ai ramené de l'eau, j'ai ramené mon pchit-pchit pour me mouiller tout le temps.
Alors, mon installation, ça ressemble à des claquettes, mon sac à dos, une petite bouteille d'eau et une chaise d'appoint. Mois de juillet, mois d'août, j'aime bien rester à Paris, profiter du beau temps, travailler. Et puis voilà, tous les collègues sont au travail, les amis aussi sont au boulot, donc je suis venu lui profiter tout seul.
Ben nous, on ne peut pas partir en vacances parce que je vais accoucher bientôt. Ben oui, le parc, c'est l'alternative parce que ma fille de 3 ans a besoin d'avoir un contact avec l'herbe. Elle adore enlever ses chaussures et se rouler dans l'herbe. Donc on vient prendre le goûter dans le parc et elle adore ça.
Je suis coach sportif et entre deux coachings avec le soleil, je me suis posé au parc. Je profite enfin des bonnes températures de Paris. Mais c'est bientôt les vacances là.
Oui, c'est bientôt les vacances. Vous aussi, vous avez vos petites astuces.
je reste au bureau, c'est climatisé. Voilà. Merci à vous Sophie Tusson, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo, justement, Marlène Duré, 3 départements bretons sont en alerte orange.
Oui, les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan, donc pour des orages qui vont circuler demain, c'était prévu, c'est confirmé. Des orages parfois violents avec de la grêle possible et des bourrasques de vent pouvant atteindre les 90 km à l'heure. Des orages qui interviennent après une semaine très estivale, hein, dans le contexte des vacances, justement, il faut être très vigilant. On va avoir d'abord une première salve, en début ou milieu de matinée, jusqu'à midi 13h, ensuite une petite pause. Les orages vers l'Angleterre. Et puis il y aura à nouveau de gros orages. C'est la seconde fournée hein, aux alentours de 16-17h jusqu'en début de soirée. L'Ille-et-Vilaine reste en marge. Ça peut déborder sur le Cotentin l'après-midi. Sur le reste du pays, pas mal de nuages près de l'océan, forcément. Le ciel va aussi commencer à se voiler sur le reste du pays. Alors pour autant, le ciel va rester lumineux, il va commencer à faire lourd. Là où il fera encore vraiment beau, c'est le long des frontières du Nord et sur le pourtour méditerranéen. Les températures,
elles
vont baisser en Bretagne et sur le littoral atlantique, forcément. Avec 22 à 27 degrés. En revanche, la chaleur va persister en allant vers l'est. Ça sera d'ailleurs la journée la plus chaude de cette séquence de beau temps, surtout dans le nord-est. Alors, de la Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est et à la Franche-Comté, mais aussi sur le littoral méditerranéen et en Corse, comptez 26 à 32 degrés. Ailleurs, donc 30 à 36 d'une manière générale, jusqu'à 37-38 dans le sud-ouest, notamment dans le Tarn, on pourrait atteindre les 38 degrés.
Pas mal dormir encore.
Voilà, et puis ensuite d'autres orages vont prendre naissance du massif central en allant vers le nord-est. On en reparlera bien sûr pour ce week-end. Et les températures vont vraiment baisser samedi. Et là, c'est pour tout le monde.
Écoutez, c'est la fête. Merci Marlène, 18h30 pour un nouveau point météo.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, nous retrouverons depuis Tokyo Tony Estanguet, le président de Paris 2024, triple champion olympique de canoë, à la veille de l'ouverture de ces JO un peu spéciaux. Rendez-vous dans deux minutes.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h18, l'interview d'Europe Soir à présent avec nous ce soir. Tony Estanguet, bonsoir.
Bonsoir.
Triple champion olympique de canoë en 2000, 2004, 2012, président bien sûr de Paris 2024. Vous êtes à Tokyo actuellement, cérémonie d'ouverture bien sûr demain. Quel est votre sentiment en ce moment? Est-ce qu'il y a de l'excitation du retour des épreuves olympiques ou alors il y a une crainte que la fête soit gâchée par le Covid bien sûr?
Vous savez, moi j'ai découvert les Jeux à Barcelone en 92. À ce moment-là, j'étais juste un petit spectateur. J'allais voir avec ma famille les Jeux de l'autre côté de la frontière des Pyrénées. Et depuis Barcelone, j'ai suivi tous les Jeux. Et à chaque fois, il y a quand même cette magie qui opère. Et c'est vrai qu'on arrive ici à Tokyo avec ce sentiment particulier en sortie de crise, en tous les cas depuis cette crise sanitaire, que on a hâte de retrouver ces émotions des Jeux olympiques et paralympiques. Ça nous a tellement manqué. Donc il y a beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Moi je suis arrivé il y a quelques jours, j'ai croisé quelques athlètes et on a vraiment l'impression que ça va nous faire du bien de voir de nouveau ces performances incroyables dans tous ces sports olympiques.
Tony Estanguet, les bulles sanitaires des 11 000 athlètes sont très très strictes. C'est pesant même pour certains. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous craignez un effet négatif sur les performances sportives?
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les conditions dans lesquelles les athlètes ont dû se préparer ont été quand même particulièrement difficiles. J'allais dire, même depuis l'année dernière, pour beaucoup d'athlètes, ils n'ont pas pu s'entraîner pendant plusieurs mois. Ensuite, ça a été une galère pour pouvoir se qualifier parce que les compétitions n'étaient pas organisées puis reportées et les modes de sélection souvent un peu décidés sur le tard parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Donc on arrive ici finalement qualifié dans des conditions de préparation mentale entre guillemets vraiment difficiles. On est obligé d'avoir ce protocole sanitaire très lourd, avec des tests tous les jours, avec des déplacements très très limités. Voilà, les athlètes, malgré tout, moi j'ai pu aller visiter le village des athlètes il y a 2 jours, et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que s'il y a bien un endroit dans le monde aujourd'hui où il y a de l'optimisme, où les gens voient le bon côté des choses, où ils ont envie d'en découdre, envie de participer à ces jeux, c'est au sein du village des athlètes. Et moi, j'ai été bluffé par leur envie. Je m'attendais un peu au moral un peu en baisse, difficile. Ben non, j'ai trouvé des athlètes hyper motivés, déterminés. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur premier jeu. Et ils se sont tellement battus depuis des années pour en arriver là que je peux vous dire que maintenant qu'ils sont là, ils vont tout faire pour que ces jeux réussissent.
Toute performance, il faut bien l'expliquer, toute performance peut s'envoler sur un test PCR positif. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire abstraction finalement.
Ben, ça veut dire qu'il faut faire très attention déjà. Il faut vraiment respecter toutes les règles, prendre beaucoup de précautions parce que c'est vrai que cette pandémie, personne ne maîtrise complètement ce virus, et même si, encore une fois, moi je suis impressionné par tout ce qui a été mis en place par Tokyo 2020 pour limiter les risques, le risque il existe toujours. Donc pour les athlètes, il faut faire très attention, et de notre côté, il faut rester concentré sur son épreuve, sur sa course, faire comme si tout allait bien se passer et réussir à faire la différence malgré les contraintes et les difficultés.
Tony Estanguet, vous avez un mandat au Comité international olympique. Il se termine à la fin de cette édition à Tokyo. Comment est-ce qu'au CIO, on vit ces JO de l'intérieur avec une épée de Damoclès telle que le Covid ?
Au CIO, écoutez, on trouve que ces Jeux, c'est quand même un sacré message d'espoir. On le disait à l'instant, d'abord pour les athlètes qui vont participer, enfin, qui attendent ce moment depuis très très longtemps. Plus d'un an, ils sont dans cette difficulté-là. Pour le monde du sport international, parce que on sait, c'est un milieu comme tous les autres milieux d'ailleurs, mais qui a énormément souffert, avec des clubs qui ont été fermés, avec un modèle qui est vraiment en difficulté aujourd'hui à être relancé. Et on sait combien le monde du sport apporte à la société aujourd'hui pour des raisons de santé, tout simplement. Les statistiques sont pas bonnes. La population souffre de plus en plus de sédentarité, d'obésité, et la pratique du sport est nécessaire dans notre société. Donc on a besoin de ces jeux pour relancer la machine, pour envoyer ce message de résilience, d'espoir, que malgré ce Covid, malgré cette pandémie, on peut continuer à vivre, à fonctionner, à partager des moments très forts. Et ces jeux, c'est un message d'espoir très fort. Et au CIO, tout a été mis en place pour que ces jeux puissent se maintenir avec des conditions extrêmement difficiles et contraintes, parce que voilà, encore une fois, il ne faut pas prendre de risques pour les athlètes et pour la population japonaise. Mais c'est quand même un très beau message d'espoir, et on a hâte que cette cérémonie d'ouverture puisse se lancer dès demain.
Alors, côté performance, la France a battu son record en 2016. Les tricolores avaient récolté 42 médailles à l'époque, se hissant à la 7e position au classement des nations. Vous êtes confiant pour la délégation française cette année ?
Ah, mais oui, moi je suis leur premier supporter. Écoutez, j'ai tellement envie que ces athlètes français se régalent, réussissent, gagnent des médailles. Encore une fois, c'est très difficile de faire des pronostics parce que encore une fois, les 2 dernières saisons sportives ont été complètement chamboulées et les athlètes manquent de repères. Donc ils ont du mal à savoir exactement ce qu'ils valent dans ces conditions-là. Mais bon, voilà, moi j'ai envie d'y croire. Je pense que les athlètes français sont hyper motivés et je sais qu'ils vont donner le maximum. Et nous, à notre place, il faut qu'on soit leurs premiers supporters parce que c'est très dur pour eux. Ils n'auront pas de public, de supporters dans les gradins. Donc il va falloir qu'on leur apporte toute l'énergie qu'on peut et qu'on leur envoie ces messages de soutien, d'amour, pour les aider à aller chercher ces belles médailles.
C'est vrai, vous l'avez dit, il n'y a pas de public dans le gradin. Pour un athlète, c'est quelque chose de complètement différent.
Ah ben c'est sûr, ces jeux ils vont être uniques. Au-delà du message d'espoir incroyable que ça peut envoyer à l'humanité, d'avoir ces 200 et quelques pays qui se retrouvent pour participer à une compétition aujourd'hui dans ce contexte, c'est un très beau message. Mais c'est vrai que, encore une fois, il faut accepter que ces jeux seront différents. Et Et pour les athlètes, pour en avoir discuté avec certains, ben, entre choisir entre l'annulation ou des jeux sans public, ils préfèrent malgré tout les jeux sans public. Donc c'est certes peut-être un peu moins bien, mais ça reste quand même une formidable occasion pour eux de démontrer leur qualité et leur capacité à tout donner pour continuer à faire rêver la population. Parce que ben, pour beaucoup de gens, ça va être à la télévision qu'on va suivre ces épreuves-là. Ou à la radio, et qu'on va suivre ces athlètes.
Et le 8 août, Tony Estanguet, lors de la cérémonie de clôture, un passage de témoin entre Tokyo et Paris aura lieu avec un événement en direct du Trocadéro à Paris, retransmis au Japon.
Et oui, c'est vrai que c'est pour nous une formidable opportunité. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est un peu comme une course de relais. Hein. Les villes se transmettent le passage de relais à la fin de la cérémonie de clôture. Et nous, on est plutôt fiers de passer après Tokyo parce que, encore une fois, ce que ce comité d'organisation a dû mettre en place là depuis un an et demi, c'est vraiment impressionnant. Et moi, vraiment, je leur tire un grand respect parce que c'est bluffant quand on voit la complexité que c'est d'organiser les Jeux, de réussir à s'adapter à ce contexte. C'est juste incroyable. Et pour Paris 2024, effectivement, le 8 août, officiellement, on va ramener les Jeux 100 ans après les derniers Jeux d'été en 1924 à Paris. Les Jeux sont de retour en France et donc pendant une dizaine de minutes, on va donner un petit aperçu de ces Jeux de Paris 2024 que l'on souhaite spectaculaires, que l'on souhaite participatifs. Et donc une partie de cette cérémonie sera effectivement organisée depuis Paris parce qu'on souhaite accueillir toutes celles et ceux qui veulent faire partie de cette aventure, donner envie aussi au monde entier de venir visiter Paris et de participer à ces Jeux de Paris 2024. Donc on vous réserve de très très belles surprises le 8 août aux alentours de 14h. Regardez vraiment cette cérémonie. Ce sera la première cérémonie de Paris 2024, cette cérémonie de passation entre Tokyo et Paris.
On sera là bien sûr. Merci à vous Monsieur le Président de Paris 2024. Belle cérémonie demain, Tony Estanguet.
Merci beaucoup.
Et puis les JO, on va continuer à en parler dans le Club des Idées tout à l'heure à partir de 19h20.
Europe 1, Thierry Dagiral.
18h27, dans un instant, le fil info, puis les grandes voix. On parle de la droite. Valérie Pécresse annonce sa candidature à la présidentielle et on parle du sprint vaccinal. Vous prenez la parole, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. 39-21, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
200 millions de personnes désormais totalement vaccinées contre le Covid-19 en Europe, ce qui représente plus de la moitié des adultes européens. La Commission européenne se fixe l'objectif de 70% de vaccinés d'ici à la fin de l'été. En France, ce chiffre dévoilé par l'assurance maladie, plus de 5 millions de personnes à risque restent encore à vacciner. Face à la flambée des cas de contamination, Gabriel Attal évoque un sprint final avant la fin de l'été. Les débats à l'Assemblée sur le pass sanitaire, contre l'avis du gouvernement, les députés votent contre le recours au pass pour les patients non urgents ou les visiteurs dans les établissements de santé et les maisons de retraite. Valérie Pécresse se lance dans la course à l'Élysée. La présidente de la région Île-de-France annonce sa candidature dans le cadre d'une primaire à droite pour 2022. Valérie Pécresse qui veut restaurer la fierté française, a-t-elle déclaré dans le Figaro. Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense extraordinaire ce matin. Une réunion pour parler de l'affaire Pegasus alors qu'un des téléphones du président et ceux de 14 ministres ont été ciblés par le logiciel espion en 2019. Et puis Venise échappe in extremis à son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril. Juste avant l'annonce, l'Italie avait décidé d'interdire les grands navires de croisière de pénétrer au cœur de la lagune, une interdiction qui entrera en vigueur le 1er août.
Sophie Tussaud qui revient à 19h pour une édition complète. La météo, Marlène Duré, avec le retour des orages dès demain.
Oui, prudence en Bretagne. Une alerte orange est en cours dans les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan. Donc pour des orages qui vont circuler en deux temps ce vendredi, le matin et en journée. Des orages parfois violents avec de bonnes pluies, hein, parfois intenses, de la grêle possible. Des bourrasques de vent pouvant atteindre les 90 km à l'heure. L'Ille-et-Vilaine reste en marge a priori et ça peut déborder quand même l'après-midi sur le Cotentin. Sur le reste du pays, nuageux près de l'océan. voilé ailleurs, lumineux quand même, hein, et plutôt lourd. Beau près de la Méditerranée et près des frontières du Nord. Les températures seront en baisse à l'ouest, comme prévu, avec 24 à Biarritz, 25 à Brest ou encore 26 à La Rochelle. Et puis en allant vers l'est, on sera encore dans de l'air chaud. 31 à Paris, nous aurons 34 à Bourges, 35 à Grenoble, 36 à Clermont-Ferrand. Et les températures près de la Grande Bleue afficheront 27 à 33 degrés.
Merci Marlène, à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix comme tous les soirs avec ce soir à mes côtés en studio Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Et Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonsoir Louis.
Bonsoir Thierry.
Et bien sûr, vous intervenez vous, si vous le souhaitez, au 39-21. On commence, si ça vous va, par la candidature surprise finalement de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui sera bien candidate à l'élection présidentielle de 2022. Elle l'annoncera officiellement ce soir sur le plateau du journal de 20h de TF1, puis réunira ses soutiens dans la foulée au pavillon Baltard. Louis Osalter, c'est une surprise ? Comme ça, en plein été.
Alors, qu'elle déclare sa candidature, non. Qu'elle le fasse maintenant, oui, effectivement.
On l'attendait
un peu plus tard. Elle devait normalement laisser mariner un peu pendant l'été et profiter d'une dynamique d'un taux d'attention, surtout à la rentrée. Parce qu'il faut bien dire que déclarer sa candidature à la présidentielle un 22 juillet, dans un contexte où les gens ont la tête ailleurs. Et puis en plus, quand c'est d'actualité, on a plutôt la tête au Covid en ce moment, malheureusement. Qu'à autre chose. Après, moi, je pense que ça n'a pas une importance folle. Elle va sans doute, comme Xavier Bertrand l'a fait, répéter plusieurs fois qu'elle est candidate à la présidentielle pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde et de ceux qui ne s'en doutaient pas. Ça, c'est uniquement pour la stratégie et le timing. Après, la question, c'est évidemment la désignation du candidat ou de la candidate de la droite, puisque deux trains sont lancés l'un contre l'autre. Un Xavier Bertrand qui explique qu'il sera de toute façon le candidat hors primaire, et une Valérie Pécresse et peut-être d'autres candidats qui plaident pour une primaire, une désignation par les sympathisants de droite. Et là, ces deux trains, pour l'instant, on ne voit pas comment la collision est évitée d'ici à l'automne.
Sylvain Courage de l'Obs, pourquoi si tôt, pourquoi maintenant ?
C'est stratégique, hein, comme ça vient d'être évoqué, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas laisser Xavier Bertrand seul dans l'arène, engranger les points de sondage pendant qu'elle était censée réfléchir, ce qu'elle avait annoncé, hein, qu'elle réfléchirait pendant l'été. Et donc, en annonçant sa candidature, elle crédibilise quand même beaucoup la primaire. Et on sait qu'il en a été question.
Exactement.
Il en a été question dans une réunion il y a deux jours. Et là, c'est une candidature de poids. On sait que dans les sondages, elle n'est pas très loin de Xavier Bertrand. Donc, elle peut lui tenir tête. Et c'est un gros coup que prend Xavier Bertrand parce que sa position, tout d'un coup, devient beaucoup plus difficile. S'il y a un candidat estampillé LR qui sort d'une primaire, que va-t-il faire ? Donc c'est quand même une prise de position stratégique. Effectivement, ce n'est pas destiné à l'opinion. C'est comme une première injection. Il y en aura une autre, sans doute, en septembre.
Allez, première réaction des auditeurs qu'on écoute au 39-21. Bonsoir, Franck. Franck est avec nous ou pas ? Pas encore, on va tenter de le joindre dans un instant. Honnêtement, quelles sont les différences aujourd'hui, Louis Osalter, entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ? Il y en a finalement assez peu.
De ce que j'ai lu pour l'instant de leur programme, il y en a très peu. Là, Valérie Pécresse fait une interview au Figaro avec ses premières mesures. D'ailleurs, moi, ça me frappe, c'est-à-dire que les deux parlent des mêmes sujets. Ils parlent d'autorité, d'immigration, d'insécurité, enfin, tous les sujets sur lesquels la droite tourne, et il faut bien le dire, qui sont au cœur quand même de préoccupations de l'opinion publique. Non seulement ils dévoilent pas tout, ils disent pas tout de leur programme, en tout cas j'espère, parce que pour l'instant je ne vois pas grand-chose. Ouais. Et puis en fait, ce qui me frappe dans l'interview de Pécresse, là, dans le Figaro, et ce qui m'avait frappé dans ce que disait Bertrand quand il parlait de son programme, c'est qu'ils emploient des grands mots, autorité, liberté, fin des normes, mais ils disent pas comment ils font. Je vous prends un exemple concret, Valérie Pécresse dit, un vieux refrain qu'on connaît déjà, « je veux des quotas d'immigration ». D'accord, mais si vous faites voter des quotas d'immigration par le Parlement, en fait, si un juge décide qu'un demandeur d'asile, on ne peut pas l'expulser parce que la Convention européenne des droits de l'homme le dit, le Parlement a beau voter tous les quotas qu'il veut, ce n'est pas lui qui décide. Quand Xavier Bertrand dit « je veux 50 ans de prison pour des terroristes », je ne suis pas sûr que ça passe le Conseil constitutionnel et, une nouvelle fois, les juges européens. Et cette question, en fait, qui est celle de la souveraineté, c'est-à-dire de qui décide, est-ce que le Parlement passe outre des décisions ou des jurisprudences de cour, ça, ils n'y répondent jamais. Alors, ils ne sont pas les seuls, hein. C'est une grande part de la classe politique qui vote des grands textes, vote des pouvoirs qui sont attribués aux cours de justice pour respecter des grands principes fondamentaux et qui ensuite donnent des mesures qui vont à l'encontre de ces principes fondamentaux ou en tout cas des jurisprudences des cours françaises et européennes et n'expliquent pas comment ils font ? À mon avis, ils vont prendre un mur s'ils n'expliquent pas ça.
39-21, Franck est avec nous. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Castellet dans le Var, c'est bien ça ?
C'est ça, oui.
Comment vous réagissez-vous à cette annonce surprise, surprise par la date, de Valérie Pécresse.
Personne n'a été surpris. Avec son grand ami sage bouddhiste David Bertrand, on est arrivés tous les deux quand même. Parce que à part eux-mêmes, vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui les intéresse ? Je suis ancien militant OMP. Alors j'ai lâché la rampe au moment des Républicains parce que après parce que j'en avais assez d'être dans un parti où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes et ceux qui ont un peu d'empathie pour le petit peuple que nous sommes étaient mis au rencard. J'espère que d'autres vont venir de droite présenter.
En cas de primaire, vous pourriez vous déplacer pour voter ?
Ça dépendra de qui y aura, mais si c'est pour qui est Wauquiez, Pécresse, Bertrand, Copé, vous savez quoi ? J'espère qu'ils vont tous se porter candidats.
Alors, c'est qui pour vous ? C'est qui pour vous, vos candidats ?
Un ou deux qui ont de la conscience, qui ont de l'expérience, qui ont de la mesure et de l'envie d'agir.
Ouais.
Peut-être un Édouard Philippe, peut-être un François Baroin.
Ouais. Enfin, Baroin, il n'a pas tellement envie d'y aller pour l'instant.
C'est peut-être son plus gros défaut, parce que peut-être qu'il serait mieux placé qu'eux. Parce que c'est pas qu'une question d'envie, c'est de proposer quelque chose. Moi, je propose à Madame Pécresse qu'elle écrive sur son affiche de campagne « Votez pour moi » en écrivant « moi » en majuscule.
Merci parce à que, vous.
Il ne faut pas être psychologue pour les voir arriver quand même.
Merci à vous, Franck.
Merci.
Merci, vous nous appelez du Castellet dans le Var. Dites-moi, est-ce que son bilan à la région Île-de-France est bon ? En tout cas, il est salué, y compris par une large partie de la gauche. Ça peut lui servir, à votre avis, ce bon bilan, Sylvain Courage ?
Oui, c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce qu'en fait, Xavier Bertrand avait un plan qui semblait intelligent, c'est-à-dire de faire la preuve qu'il pouvait devenir le président de la République parce qu'il allait être triomphalement réélu dans sa région.
Ouais.
Ce qu'il avait oublié, c'est que d'autres pouvaient exactement suivre la même trajectoire. Il y en a eu quelques-uns dans son camp, et c'est ça aujourd'hui qui lui revient un peu en boomerang, c'est-à-dire que la preuve par la présidence d'un exécutif régional, eh bien, Valérie Pécresse peut l'administrer, Wauquiez peut l'administrer, et Xavier Bertrand n'est plus seul de son espèce. Et c'est là qu'à mon avis, sa position est affaiblie, parce qu'effectivement, elle va servir du laboratoire de l'Île-de-France, qui est quand même la plus grande région, elle gère un budget considérable. Ouais. Donc elle peut, en termes de crédibilité, lui rendre vraiment coup pour coup.
Allez, les grandes manœuvres à droite, on continue à en parler dans un instant avec vous, bien sûr, 39-21, on revient tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h40, la suite de vos grandes voix, comme tous les soirs, avec ce soir Sylvain Courage de l'Obs et Louis aux Alteurs de Marianne. On continue, avant de parler des discussions difficiles à l'Assemblée pour l'extension du pass sanitaire, on continue à parler de la candidature surprise, parce qu'on est en plein cœur de l'été, candidature de Valérie Pécresse. À votre avis, Sylvain Courage, est-ce qu'elle peut rassembler autour de sa candidature ? Ou alors elle part de très loin ?
Moi, je pense qu'elle peut rassembler les LR. La difficulté, c'est qu'il y a un morceau maintenant de la droite qui préférera peut-être Xavier Bertrand. Donc non, elle ne peut pas rassembler tout le monde. Donc c'est bien le drame qui était évoqué par notre auditeur. C'est-à-dire que les militants, eux, ils sont décontenancés par ces querelles de chefs qui, à droite, ont fait tant de mal, élection après élection. Donc là, on voit bien qu'il y a une querelle de chefs.
Ouais.
Et elle ne va pas se résoudre facilement.
Louis Alter, ça va être difficile pour les candidats à cette primaire de la droite de se démarquer finalement les uns des autres. On a le sentiment qu'il y a très très peu de différence, c'est la même génération,
oui.
C'est les mêmes anciens ministres, c'est la même bande de copains finalement, il y a peu de différence.
Ils furent copains, ils ne le sont plus.
Idéologique comme à chaque fois.
Et oui, ils ont tous été ministres de Nicolas Sarkozy.
Exactement.
En plus, ils ont tous participé à un bilan qui en plus a été mitigé aux yeux des électeurs de droite, donc ça leur sera évidemment tous reprochés en bloc. Et puis je pense qu'ils auront un choix stratégique à faire, c'est-à-dire que l'électorat de droite, il a été victime d'une double lame. Il y a une partie qui part sous le quinquennat Sarkozy voter pour Marine Le Pen en se disant bah, finalement, son bilan n'est pas assez musclé, on s'en va. Et puis l'autre partie, le deuxième effet qui se coule avec Macron, une partie de l'électorat de droite part chez Macron et on ne sait pas s'il en reviendra. En fait, il y a une seule bonne nouvelle dans les sondages pour les Républicains et pour la droite en général, c'est que les électeurs, les sympathisants de droite ont tendance à vouloir un candidat de droite. Sous-entendu, pas Emmanuel Macron, et ils seraient prêts à voter pour quelqu'un si cette offre alternative se dessinait. Là, ils ont le problème qui est que bah, il y a il y a trop d'offres quelque part, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes. Un programme dont on voit à peu près à quoi il ressemblera, quel que soit le candidat, ça me rappelle les débats de la primaire de 2016 où le seul débat en fait portait sur le nombre de milliers de fonctionnaires qu'il fallait supprimer. Oui. Mais ça, c'est pas étonnant. Après, c'est une famille politique, elle a encore plus idéologique, c'est normal. Donc c'est un casting, c'est presque un concours de beauté et bien malin qui dira qui le gagnera et puis qui s'y soumettra, puisque on sait que Xavier Bertrand, lui, ne veut pas s'y soumettre, d'où le fait que je parlais de ces deux trains lancés l'un contre l'autre. S'il ne trouve pas le moyen d'empêcher cette autodestruction-là, on se retrouve théoriquement avec deux candidats de droite au premier tour, sauf qu'on n'est plus en 95 avec Balladur-Chirac, il n'y a plus assez d'espace pour se permettre de laisser le premier tour faire le choix du candidat.
Allez, on change de sujet. On va passer à présent au pass sanitaire en vigueur depuis hier dans les lieux de culture et de loisirs. Le projet de loi sur son extension du pass sanitaire est lui actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Ça doit normalement être voté avant la fin du week-end. C'est pas forcément tout à fait gagné, Sylvain Courage.
Non, parce qu'on assiste à cette guérilla parlementaire qui est une tradition française, hein, ce parlementarisme où plutôt que d'essayer d'élaborer la loi en l'amendant, en fait, on se sert des amendements et des prises de parole pour essayer de faire trébucher le gouvernement. C'est inscrit dans nos gènes politiques. Et du coup, à chaque fois que le Parlement est saisi, ben on assiste à ça. Et c'est vrai que ça ralentit l'action du gouvernement dans un contexte où, face à la pandémie, quand même, on pourrait espérer que...
Qu'il y ait un consensus, une forme de consensus, en tout cas.
Les hommes de bonne volonté se rassemblent. Ouais. Et on assiste au contraire. Ouais. Ça aussi, c'est un paradoxe.
Et de surcroît, Louis Alter, il y a quand même des claques et des revers ce soir pour le gouvernement. L'Assemblée nationale a voté, par exemple, contre le pass sanitaire pour les patients et visiteurs, contre l'avis du gouvernement. C'est une claque, quand même.
Oui, mais... En même temps, c'est le débat qui vit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvain, au sens où je pense qu'il est bien que le débat soit au moins purgé devant le Parlement. Ouais. On voit qu'il y a des manifestations, des gens qui s'enferment dans une opposition qui peut être très virulente, c'est-à-dire qui non seulement sort parfois de la rationalité, mais du coup, ce sont des gens qui s'excluent eux-mêmes du cadre de débat.
Ils sont à l'extérieur des assemblées. Hein.
Pose le système politique. Oui, bien sûr, mais du coup...
Il y a aussi ça en France, il y a aussi...
Oui, mais le seul lieu là où on peut avoir un débat...
Devant le Sénat, il y avait aussi des manifestations...
Exactement. Et on sent que dans la société, il y a un risque de clivage, ouais. On s'engueule dans les familles, voilà, tout ça.
Mais qui débat, c'est nécessaire, mais là, 1200 amendements, c'est plus que...
Oui, alors ça, le problème, c'est qu'on fait ça à la française. Effectivement, quand on fait ça à la française, et surtout en urgence, le président donne ses décisions devant tout le monde à la télévision, oui. Et derrière, le Parlement est prié de chipoter sur les détails, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Le pass sanitaire, il sera là, les gens seront incités à aller se faire vacciner. La quasi-totalité des grandes annonces d'Emmanuel Macron entreront en application parce que c'est le président, mais le Parlement n'a que le pouvoir en fait, de chipoter, de mégoter sur les détails, mais moi je trouve que sur le fond, et d'ailleurs les débats au Parlement, je les ai suivis hier et aujourd'hui, sont assez intéressants dans certains cas, parce que au moins le gouvernement et notamment le ministre de la Santé doit aller rendre des comptes pour dire voilà pourquoi nous faisons ça, voilà comment nous le justifions. Ouais. Si au moins il y a cet espace pour qu'il puisse s'expliquer, même si tout le monde ne regarde pas les débats au Parlement et on le comprend, c'est quand même nécessaire dans une démocratie.
Dites-moi Sylvain Courage, est-ce qu'il y a de vraies divergences dans la classe politique sur le fond? Ou alors c'est que de la politique politicienne finalement?
Non, il n'y a pas que de la politique politicienne, il y a même des vraies divergences. Si on prend tout l'échiquier politique, ouais. Marine Le Pen, elle conteste, elle met surtout le gouvernement devant ses contradictions. Hein. On voit qu'elle veut pas basculer dans la mouvance anti-vax, donc elle ironise beaucoup. La droite défend plutôt les cafetiers, les petits patrons, essaye d'assouplir le carcan du pass sanitaire pour que quand même les gens puissent continuer à faire un peu leur business. Les socialistes veulent une vaccination obligatoire, donc ils disent plutôt que de contraindre les gens, autant assumer et rendre ça obligatoire, ce qui est une position tout à fait entendable. Et puis la France insoumise, alors là par contre, elle rejette vraiment de manière virulente le pass sanitaire au nom des libertés publiques, ouais. Et elle flirte avec la mouvance anti-vax.
Allez, on donne la parole à nos auditeurs, c'est important. 39-21, bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Cannes.
Tout à fait.
Et est-ce que vous suivez un peu ces débats à l'Assemblée sur l'extension du pass sanitaire alors?
Je le suis en écoutant les informations, parce qu'en le regardant, je suis un peu fatigué par les discussions.
Ouais. Moi, et quel regard? Dites-moi.
Je voulais faire passer un message d'optimisme, parce qu'à midi, j'ai entendu vos informations, et il y avait le responsable du festival de Ramatuelle.
Exactement,
qui disait,
voilà, et qui disait bon, on était un petit peu restreint parce qu'on n'a pas pu faire venir l'orchestre philharmonique de Nice, etc.
Tout à fait. Ouais.
Bon, or, ben moi, je viens d'assister pendant 15 jours au festival de jazz de Juan-les-Pins et de Nice,
ouais.
Et ça a été formidable. Et on ne pouvait pas entrer si on n'avait pas le pass sanitaire. C'était obligatoire. Et à Juan-les-Pins, on a eu Mélodie Gardot avec le festival, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Ouais.
À Nice, on a eu le Cubain Fonseca avec l'Orchestre Philharmonique de Nice. On a eu Michel Jonas, on a eu Brad Meldo, on a eu Kaye Soud, ouais. Etc. Ça a été formidable.
Donc pour vous, le pass sanitaire, c'est la nécessité pour pouvoir vivre comme avant, à peu près normalement.
Et tous les artistes, leur première parole quand ils arrivaient sur scène, c'était de dire merci, merci d'être là, merci au pass de nous rendre la liberté de chanter. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le milieu culturel qui a tant souffert ne se mobilise pas pour ce pass sanitaire, parce que c'est leur liberté, c'est leur jeu. On l'a vu pendant Fonseca, il s'est mis à pleuvoir, tout le monde est resté là, et tout le monde avait travaillé, tout le monde avait envie d'être là, puis d'écouter, et de les voir
votre
vivre.
Votre message est passé, Daniel, merci.
Voilà.
Merci,
voilà.
Merci infiniment, merci de nous écouter, c'est adorable. Grand merci. Merci à vous.
Allez,
Daniel.
Au revoir.
Allez, on marque une pause et puis on va continuer la discussion dans un instant. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
C'est la suite et fin de nos grandes voix avec ce soir Sylvain Courage de l'Obs avec Louis Osalter de Marianne. On parle de cette conversation, de ce débat difficile, plus difficile que prévu finalement à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, Louis Osalter, est assez surpris par ce qui se passe ?
Oui, en fait, on sent, et notamment quand on voit Olivier Véran s'agiter dans l'Assemblée, on sent une certaine impatience et un agacement. Hier, j'étais à l'Assemblée, justement, et effectivement, c'était assez remuant au groupe La République En Marche, la façon dont certains, mais à l'intérieur de la majorité, c'est-à-dire que les oppositions ne viennent pas que des Insoumis ou d'autres groupes parlementaires d'opposition, certains à l'intérieur de la majorité, déjà s'opposaient au pass sanitaire en lui-même, au début, et maintenant essaient de trouver des ajustements. Typiquement, je pense à l'amendement qui a été voté hier et qui reporte l'application du pass sanitaire pour les mineurs à fin septembre. Ça avait peut-être déjà été reporté à fin août. Mais bon, c'est ce que je disais. Le président a fait les grandes annonces.
Mais c'est ça.
Les grandes lignes ont été fixées. Puisque le Parlement n'a plus que les détails à fixer, au moins, il essaye de faire usage de sa souveraineté pour pouvoir le faire. Effectivement, ça prend un peu de temps. Moi, je ne pense pas que ça change grand-chose si la loi est votée vendredi ou dimanche ou lundi, puisque de toute façon, l'application aura lieu. Et le gouvernement a annoncé au moins une semaine de tolérance pour l'application du pass dans certains lieux début août.
Sylvain Courage, rebondis sur ce que dit Louis Osalter, c'est-à-dire que finalement, il y a eu une annonce forte et dure du président de la République, et puis après, il y a plein d'exceptions finalement. Est-ce que c'est pas une erreur de la part de l'exécutif?
C'est vrai qu'il y a un défaut de préparation, parce que tout n'était pas fixé dans les détails, et que l'intendance ne suit pas forcément. Donc il y a un vrai sujet.
C'est juste pour raconter dans le journal des 18h, c'est un mille feuilles finalement de mesures
mais ceci dit,
dans les villes.
Bien sûr, non, mais puis chaque détail, et puis chaque profession qui est impactée, les normes, les seuils, etc. Tout ça, ça peut se discuter, et il y a vraiment matière à débattre. Mais pour le président de la République, sans doute le plus important, c'était de relancer la campagne de vaccination. Et ça, l'effet,
et ça a marché.
L'effet
pour le coup,
est atteint. Donc si vous voulez, après, effectivement, à la marge, il y a des choses qui clochent, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été prévues. Mais l'essentiel pour lui, c'est de relancer la campagne de vaccination et surtout de dire, de reprendre la main et de dire, voilà, on a une solution à vous, citoyens, de vous en saisir. Donc il y a aussi un marché politique qui est très important pour l'exécutif.
Mais en même temps, Louis Osalter, il a aussi réveillé dans le même temps les anti-vax. On a bien vu encore un nouveau rassemblement cet après-midi devant le Sénat. Ce week-end, d'autres rassemblements sont prévus partout en France. Donc, il a relancé la vaccination, mais il a aussi réveillé les anti-vax.
Oui, vous demandiez s'il était surpris par ce qui se passait au Parlement. Je pense qu'il a surtout été surpris par le nombre de personnes le week-end dernier qui ont manifesté en plein mois de juillet, 110 000, plus de 110 000, qui ont manifesté en plein mois de juillet avec des mobilisations qui étaient convoquées quelques jours seulement auparavant. Donc, il y a en effet une vigilance du gouvernement sur un effet type gilet jaune, typiquement.
Vraiment, ils ont peur de ça ?
Oui, bien sûr, parce que ce dont ils ont peur, c'est de la coagulation. Ouais, c'est-à-dire que des gens qui viennent pour des causes qui peuvent être assez disparates, qui chacun évolue dans leur écosystème, puissent s'adjoindre. Alors souvent, c'est des mouvements qui n'ont pas de débouchés politiques, comme on l'a vu avec les gilets jaunes, parce que les gens ont des revendications qui ne se croisent pas toujours, et puis surtout, ils n'ont pas de leader très identifié. Là, c'est des leaders qui prospèrent chacun et qui agrègent un petit peu leur petite communauté. Ouais. Donc, il y a ça. Mais bon, l'effet de l'été pourrait le dissiper. Et puis,
ils vont regarder ce week-end ce qui va se passer, si les chiffres vont encore augmenter.
Bien sûr, de très près, évidemment. Mais je pense que le principal enjeu, y compris en termes de gestion de crise sanitaire, ce n'est pas les gens qui sont le plus enfermés dans des certitudes un peu extrêmes. Ce sont les hésitants. Ce sont les gens qui n'étaient pas allés se faire vacciner avant l'intervention de Macron, qui peut-être vont le faire parce qu'il leur a donné un coup de pied aux fesses, pour parler clairement. Ouais. Et je pense que ce qui pourrait miner leur morale, ce n'est pas tant la mise en application de ce pass sanitaire que les mesures de restriction à l'ancienne qui reviennent dans certains départements à vitesse grand V. Typiquement, le retour du masque en extérieur dans de très nombreuses communes. Aujourd'hui, c'était le Var, mais demain, ce sera d'autres départements. Je pense que ça entretient le côté jour sans fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir parce que même en ayant la vaccination, le gouvernement prend les mêmes mesures qu'avant. Ouais. Ça, je me demande si ce n'est pas une erreur d'appliquer des mesures qui s'appliquaient pas au moment où on n'avait pas les vaccins, qui s'appliquaient au moment où on n'avait pas les vaccins, de les répéter à ce moment-là, une mesure aussi contestée que le masque à l'extérieur. Ça donne un peu cette impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue.
Avec le sentiment de finalement jamais trop en faire, Sylvain Courage. On a beau être vacciné, il faut quand même remettre le masque. Enfin, je veux dire, ça ne s'arrête jamais.
C'est sisyphien, il faut toujours recommencer. Et c'est vrai que du coup, les effets politiques, Emmanuel Macron était sans doute satisfait de son intervention. Il avait vraiment, d'ailleurs, les sondages l'ont prouvé, il était suivi par une grande majorité de Français. Mais il y a le retour de la forme, effectivement, le retour des masques, le retour des restrictions. Les incertitudes sur la rentrée, la question des enfants, des écoles, etc. Et donc, on a l'impression de rejouer et de remâcher en permanence la même chose. Et ça, c'est vrai qu'à la longue, ça pèse.
Rapidement, pour terminer, Louis Alter, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel après l'adoption par le Parlement du projet de loi sanitaire. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas aucune bourde, finalement, dans le texte?
Oui, le Conseil d'État l'a déjà examiné et il se trouve que le secrétaire général du Conseil constitutionnel est toujours un conseiller d'État. Donc, vous voyez, ça permet de fluidifier souvent les choses. Et le Conseil d'État, comme souvent depuis le début de la crise sanitaire, a été plutôt compréhensif, n'a pas trouvé trop de choses à redire compte tenu des circonstances. Il y avait quand même le plan sur lequel le Conseil d'État, d'ailleurs, n'a pas redit grand-chose, c'est l'isolement obligatoire des personnes qui sont contaminées. Ça, je ne sais pas si ça passe la barre du Conseil constitutionnel, comme les circonstances jouent beaucoup et que les juges apprécient beaucoup à leur égard. À suivre.
Merci pour vos éclairages, Louis Alter de Marianne et Sylvain Courage de l'Obs, vos grandes voix ce soir. Merci à vous, de belles soirées. Merci beaucoup.
Au revoir.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Dans un instant, toute l'info avec Sophie Tussaud, mais Europe Soir l'été, vous le savez, c'est aussi de la musique pour vous accompagner. La reprise de Françoise Hardy, par Bon Entendeur, c'est sur Europe 1.
Le temps de l'amour, le titre de Françoise Hardy, revu et corrigé par Bon Entendeur dans Europe Soir.